Bienvenue à la série de balados « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, vous soutenir et vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Joliane Pelletier. Je suis la coordonnatrice des services à la communauté pour la région du Québec. Aujourd'hui, nous parlerons avec Marianne Lemay de leucémie myéloïde chronique. Marianne Lemay a reçu un diagnostic de LMC à l'âge de 28 ans qui a été détecté suite à une grossesse interrompue. Son fils avait 1 an et demi à l'époque. 1 an plus tard, elle a fondé sa propre entreprise qui vise à aider les organisations à prendre soin de leurs employés. Merci Marianne de te joindre à nous aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton expérience avec la leucémie myéloïde chronique?
Oui, certainement. Bien, écoute, tu en as mentionné une grosse partie, si on veut, dans la présentation. C'est-à-dire que moi, j'avais une petite vie quand même tranquille, entre guillemets, dans le sens, j'étais en super forme, je prenais soin de moi, de mon alimentation, je bougeais et tout ça. Puis un jour, pif-paf, suite à une grossesse qui s'est terminée de façon assez abrupte, malheureusement, j'ai perdu le bébé et 2 mois après, j'ai eu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique. Alors, ça a été plusieurs deuils, plusieurs chocs à absorber en même temps, j'avoue. Puis, c'est sûr que ça a été un long cheminement pour accepter tout ça, mais par la suite, à un moment donné, j'ai eu un flash parce que j'ai eu un moment un peu plus difficile, en fait, pour être honnête, là, dans mon parcours de leucémie, parce que chaque personne, c'est différent, puis chaque diagnostic est différent, bien évidemment, mais il y a eu un point où est-ce que ça allait vraiment moins bien au départ, puis le médecin m'a dit, on va savoir d'ici 2 semaines si le pronostic est favorable ou défavorable. Donc, en gros, est-ce que j'ai des chances de mourir bientôt? Et puis, ça a été 2 semaines de stress assez intense, comme vous pouvez vous imaginer. Puis, je me suis dit, si jamais je passe à travers cette épreuve-là, que je peux pas gaspiller cette chance-là, de deuxième chance à la vie. Donc, je vais bâtir mon entreprise. Et c'est ce qui m'a poussée, alors que jamais j'aurais pensé avoir le guts d'être une entrepreneur. Et pourtant, c'est écrit dans le ciel, dans ma personnalité, j'ai l'impression aujourd'hui. Puis, ça m'a donné le guts d'avancer puis de bâtir ma propre entreprise. Donc, oui, il y a des côtés vraiment. C'est pas toujours facile, la maladie, mais ça fait prendre conscience de beaucoup d'éléments qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement eu le guts ou peut-être qu'on l'aurait fait plus tard, mais je trouve que ça crée une certaine urgence de vivre, mais au-delà de la survie, c'est de vivre, donc de profiter de chaque instant.
Je trouve ça vraiment généreux de ta part de t'ouvrir comme ça sur des moments qui ont pu être plus difficiles pour toi. Puis en même temps, c'est très motivant, je crois, pour les gens qui vont écouter l'enregistrement, d'entendre que ben il peut avoir aussi du positif qui émerge d'une expérience comme celle que tu as vécue. Donc, on s'était parlé aussi un peu avant l'enregistrement, puis je t'avais demandé si c'était possible pour toi de trouver 10 faits ou mythes que les gens devraient savoir sur la leucémie myéloïde chronique. Donc, le premier que tu m'as envoyé, c'est « Parfois, on change de traitement et c'est pour le mieux ». Est-ce que tu peux en parler un peu plus?
Oui, ben c'est sûr que avec la leucémie myéloïde chronique, on prend ce qu'on appelle en anglais un TKI, donc un inhibiteur de tyrosine kinase. Généralement, c'est ce qui se passe là, à moins de d'autres situations, mais pour ce qui est des TKI, il arrive qu'on doive changer de type de médicament. Ça peut être soit parce que la maladie commence à reprendre de l'ampleur, ou soit parce que les effets sur le corps, ils sont trop importants et qu'on doit changer. Et moi, ça a été mon cas. J'ai dû changer 3 fois de médication. Il y en a pour qui le premier médicament, c'est le bon. Bon, ça dépend. Mais ce que je voulais dire parfois, on change de traitement et c'est pour le mieux. C'est que c'est toujours stressant de changer de médicament, mais parfois, ça se peut que les effets secondaires soient plus agréables ou moins pires, ou que ça combatte mieux la maladie. Fait qu'il faut pas, il faut pas essayer de pas changer parce que peut-être qu'on change pour le mieux. Parce que si le médecin a dit que c'est le moment de le changer, c'est que c'est vraiment important de le faire. Tu sais, moi, je pense à mon premier traitement, ça m'a causé des problèmes au foie. Donc, les problèmes ont pas, ils étaient réversibles. C'était pas irréversible quand même, mais ça faisait en sorte que j'étais toujours fatiguée, j'avais de l'air droguée. C'était pas la joie. Et puis, quand on a changé, j'avais peur. Je me rappelle, j'étais, mon Dieu, est-ce que ça va être pire que ça? Puis finalement, le deuxième que j'ai pris, ça allait bien pendant un certain temps. Et puis après ça, j'ai commencé à faire du papillédème, mais c'est très, 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 très rare que ça arrive. Donc, n'ayez pas peur de ça. Mais ça faisait en sorte que ma vision commençait à diminuer et que je commençais à avoir des ondes de couleur, si on veut, là, dans mes yeux, qui n'étaient pas normales, des genres de faisceaux lumineux. Donc, j'ai dû arrêter ce deuxième traitement-là. Et là, j'ai commencé mon troisième traitement qui me faisait très, très peur. Et finalement, c'est le meilleur traitement que j'ai eu jusqu'à présent. J'ai vraiment trouvé la thérapie ciblée qui me convient. Et maintenant, mes effets secondaires sont vraiment moindres. En ce moment, tu sais, je suis capable de gérer une business puis un jeune enfant, en ayant le cancer. Pour moi, c'est, j'aurais pas pu mieux espérer, là.
Puis le deuxième fait que tu m'as écrit m'a, je dois te dire, m'a fait un peu rire. C'est n'écrivez pas vos symptômes sur Google.
Oui, ben, tu sais, c'est sûr que la LMC, c'est un long parcours avec plusieurs effets secondaires qui peuvent inquiéter. Tu sais, ça se peut que vous ayez un parcours comme un fleuve tranquille, ça se peut que ce soit plein de rebondissements. Pour chacun, c'est différent. Je dirais les premiers temps, c'est souvent les pires. Mais, tu sais, souvent, les effets secondaires, ça va être des petites affaires qui sont pas si graves que ça. Donc, si on commence à tout écrire dans Google, on va capoter. Là, tu sais, je peux vous le dire comme ça, là, sans filtre, là. Moi, ça m'a pris quand même du temps avant d'être capable de dire ça, mais je pense que c'est mieux d'attendre de voir l'oncologue, de lui poser des questions, puis quand la situation sera critique, là, ce sera le moment de s'inquiéter et de paniquer. Mais si on se met en mode panique à chaque fois qu'on a un effet secondaire, c'est sûr que c'est très, très difficile pour le corps et aussi pour la santé psychologique. Donc, je suggère de ne pas écrire les symptômes sur Google, mais seulement si jamais il y a quelque chose de grave. Mais d'en parler à l'oncologue, c'est toujours la meilleure option.
Absolument, comme tu le dis, chaque personne est différente, donc ne va pas nécessairement avoir les mêmes symptômes ou réagir de la même façon, mais un point commun finalement à chaque personne est ton prochain fait qui est vous n'avez rien fait pour mériter la LMC.
Oui, exactement. Puis tu sais, c'est une question qu'on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup au début, puis on se la pose après, évidemment, mais c'est que même avec des saines habitudes de vie, la maladie peut frapper, on n'y peut rien, tu sais. Puis d'essayer de trouver la cause va pas régler le problème non plus. Fait que tu sais, c'est un réflexe normal quand même de se demander qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu sais. Mais la seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est de choisir de continuer à vivre, puis à s'investir dans des projets qui nous tiennent à cœur, puis d'essayer de trouver le côté positif. Tu sais, là, c'est sûr, là, je suis dans un angle positif. Moi, ça fait bientôt 2 ans que j'ai la maladie. C'est sûr que tu me dis jour un, c'est quoi le côté positif? J'étais pas wouh, hop la vie, là. Donc, c'est normal quand même d'avoir des moments de déprime, de découragement, mais si on a un point de vue positif, je suis sûre que ça peut aider malgré tout à travers la maladie puis à se sentir mieux aussi.
C'est vraiment bien dit. Puis aussi, je trouve que ça donne un peu, ça fait un lien avec le prochain fait finalement, qui est un diagnostic de LMC n'est pas forcément synonyme de mort. C'est le commencement d'une nouvelle vie.
Oui, c'est pas toujours de tout repos, comme je l'ai mentionné. C'est sûr que parfois, il peut arriver, il y a des séjours à l'hôpital où il y a des résultats de tests qu'on attend, on est inquiet, mais éventuellement, ça ça peut se calmer, puis on prend conscience de la beauté de ce qui nous entoure, tu sais, de la chance qu'on a d'être en vie, puis aussi que c'est correct de prendre soin de soi. Puis je pense que pour bien des gens, puis là, je veux pas te discriminer en disant ça, mais pour des mamans aussi, tu sais, qui pensent beaucoup à leur enfant puis qui s'oublient à travers ça, ou même des gens qui s'oublient à travers le travail, ou peu importe qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, je pense que la maladie permet de relativiser puis de dire, gars, moi, si je prends pas soin de moi, si je prends pas mes médicaments, ça se passera pas comme il faut, là. Tu sais, ça va pas bien aller. Il faut que je prenne du temps pour m'arrêter, pour prendre soin de moi. Puis quelque chose d'un peu anodin, tu sais, que j'ai réalisé, c'est que avant, j'étais tellement pressée. J'étais toujours pressée d'aller à quelque part, pressée de dire à mon enfant, dépêche-toi, là, on va être en retard. Puis, alors que maintenant, ça m'arrive des fois de regarder un arbre pendant 10 secondes, puis juste de me dire, wow! Puis là, ça a l'air un petit peu ésotérique là, pour les gens qui viennent d'avoir leur diagnostic, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au final, on prend plus conscience de tout ce qui nous entoure. Puis je pense que c'est ça, de vivre le moment présent. Tu sais, le monde qui a le cancer dit tout le temps ça, là, on profite du moment présent. Mais le moment présent, c'est de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on ressent en temps réel, là.
Puis aussi, c'est sûr que quand on parle de cancer, ben il y a souvent la question de fertilité qui est mise de l'avant finalement, parce qu'on sait que bon, les traitements peuvent affecter la fertilité autant chez les hommes que chez les femmes. Donc toi, tu avais envie de nous dire qu'avoir un enfant avec la LMC, c'est possible.
Oui, en fait, il y a plusieurs qui l'ont fait. Je dirais plutôt, c'est pas impossible. Parce qu'il faut quand même écouter les directives de l'oncologue par rapport au stade, au moment du diagnostic, à l'évolution de la maladie. C'est vraiment propre à chacun. Puis il faut se demander aussi, est-ce que j'ai l'énergie de mettre un autre ou un premier enfant au monde dans les circonstances? Ça se peut aussi qu'à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle le TFR, le Treatment Free Remission, qu'on va parler un peu plus tard. Qui est un point où est-ce qu'il n'y a plus de médication à prendre. À ce moment-là, ça peut être une éventualité ou sinon, ça peut être de prendre l'interféron alpha pour mener à bien une grossesse parce que la grossesse n'est pas compatible avec tous les types d'inhibiteurs de tyrosine kinase. Alors, c'est vraiment important, si ça fait partie de vos projets de vie, d'en parler avec votre oncologue pour voir ça va être quoi le plan de traitement.
Puis justement, tu nous parles de TFR. Donc, ton prochain fait, c'est avoir une LMC indétectable permet d'essayer le TFR. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu veux dire par là?
Oui. Dans le fond, c'est que il y a des tests pour savoir si on détecte la LMC dans le sang. Alors, c'est sûr qu'à votre diagnostic, on l'a détecté parce que sinon, on ne saurait pas que vous avez le cancer. Et éventuellement, avec la médication, on peut atteindre un point qui s'appelle, qu'on juge d'indétectable. Ça veut dire que la maladie, elle est présente dans le sang, mais on n'est pas capable de la détecter. Et quand on arrive à ce point-là, et que ça fait plus qu'un certain nombre de temps. Je ne veux pas dire un nombre d'années parce que je ne veux pas me mélanger ou mélanger les autres. Demandez à votre oncologue, je ne suis pas scientifique. Mais quand ça fait un certain nombre de temps et que les prélèvements démontrent que la maladie est encore indétectable pendant un certain moment, on peut essayer d'arrêter le traitement. C'est ce qui fait la différence pour, par exemple, des gens, tu sais, comme moi, j'ai eu mon diagnostic à 28 ans. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'à 78 ans. Tu sais, à 78 ans, peut-être que de garder la médication toute sa vie, ça a un moins gros impact que quelqu'un qui a un diagnostic à 15 ans, par exemple, puis qui se dit toute ma vie, je vais être là-dessus parce que ça a quand même un impact là sur le corps, sur comment on se sent. Donc, c'est quand même bien de savoir que c'est possible éventuellement pour certaines personnes d'atteindre ce niveau-là, d'être indétectable et d'essayer le treatment free remission. Ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui va avoir, qui va atteindre le niveau d'indétectable. Puis ça se peut aussi que ça devienne détectable, indétectable, détectable, indétectable. Donc ça se peut ça aussi, et c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même cette possibilité-là qui peut donner espoir.
Puis justement, en parlant des traitements, donc tu dis aussi que pour toi, les premiers jours et semaines de la médication étaient les pires, puis après, ça se replace.
Oui, tu sais, on se rappelle un peu du feeling quand on a un bébé, puis qu'on a un nouveau-né dans nos bras, puis là on se dit, hey, il va-tu finir par dormir un jour? Est-ce que ça va être toujours comme ça qu'on dormira pas puis qu'on va être épuisé toute notre vie? Ouf! Puis finalement non, il finit par dormir éventuellement. Là, il y en a pour qui ça prend plus de temps que d'autres, mais c'est un peu pareil avec la médication, du moins pour mon expérience. La première semaine a été assez difficile, d'une part parce que la maladie était encore très présente dans mon sang. Mon diagnostic, moi, j'avais ma rate était élargie aussi, avait pris de l'expansion, puis j'avais les globules dans le tapis, là, les globules blancs. Donc, ça a été assez intense au début, mais après ça, les effets du médicament ont commencé à diminuer un peu. Donc, c'est sûr que les premiers jours, c'est toujours les pires, mais après ça, ça se peut que ça diminue aussi. Donc, il faut pas se fier uniquement sur les premières journées pour se dire, oh mon Dieu, toute ma vie, ça va être comme ça. Fait que si ça vient de vous arriver, gardez espoir.
Aussi, je suis curieuse, ton prochain fait, tu nous dis que nos limites changent, mais au final, c'est pour le mieux.
Oui, puis là, je me rends compte que je vais peut-être me répéter un peu, mais moi, personnellement, j'étais une personne très intense et mon entourage me répétait à quel point je prenais même pas le temps de respirer finalement, tu sais. Puis c'est quelque chose qui m'avait assez frappée parce que c'est vrai, je m'arrêtais pas, je courais partout, à gauche, à droite, OK, un projet, on n'attend pas un autre, puis let's go, on s'en va aider le monde et changer le monde, c'est bon. C'est ça. Comme je dis, j'étais un peu intense. Puis, mon exemple de regarder un arbre me semblait vraiment ésotérique à l'époque, là. Ça veut dire que quand je m'arrêtais pour faire quelque chose, puis tout le volet d'être dans le moment présent, pour moi, ça me semblait un peu ésotérique, puis d'être une perte de temps parce que j'étais tellement axée sur la productivité puis la rentabilité de mon temps. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que je suis encore dans l'action, tu sais, on sent, quand je parle aussi, j'ai quand même un bon niveau d'énergie, mais je trouve que ça l'a aidé à me calmer les nerfs un petit peu. Bon, il y a peut-être une notion d'âge aussi, je suis arrivée à la trentaine, il y a peut-être d'autres facteurs aussi. C'est sûr que moi, comme je le mentionnais avant mon diagnostic, j'étais en très grande forme, là, je faisais de l'entraînement par intervalle, quasiment du style CrossFit. Puis avec la médication, puis tu sais, c'est sûr que, comme je dis souvent aux gens, tu sais, j'ai pris du poids, c'est sûr. Puis il y a une portion qui est due à la médication. Il y en a qui maigrissent, hein, by the way. Fait que c'est pas seulement de grossir, ça dépend de chaque personne. Puis c'est sûr que d'une autre part, je peux pas tout attribuer aux médicaments. J'ai quand même mangé mes émotions. Tu sais, après le deuil d'avoir perdu un bébé, puis de s'occuper d'un jeune enfant, gérer une compagnie en ayant le cancer, là. Je pense que l'exercice, c'était plus nécessairement ma priorité, même si, tu sais, c'est sûr que ça m'a fait mal parce que je vais être honnête, j'ai toute ma vie, j'ai tout fait pour rester mince, tu sais, parce que c'était important pour moi. Puis là, on dirait que maintenant, j'ai lâché prise un peu, tu sais, parce que je me dis, pourquoi que je vais être mince à tout prix? Tu sais, j'ai un conjoint, j'ai des proches formidables pour qui une trentaine de livres en trop, ça change rien dans leur vie, tu sais. Puis avec le cancer, on dirait que je réalise qu'on se met de la pression sur des futilités parfois, puis qu'on finit par accepter qu'on n'a plus les mêmes limites. Mais tu sais, ça, c'est un travail de longue haleine. Tu sais, je repense, je courais en 2012 le demi-marathon, puis aujourd'hui, quand je réussis à courir 5 km, je suis très contente, tu sais. Mais j'ai connu d'autres gens qui ont la LMC, qui, eux, ont continué leur performance sportive puis que ça va super bien. T'sais, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais tu sais, maintenant, pour en revenir à la course, je vois plus ça, la course, comme une thérapie puis un moment pour profiter de la nature calmement. T'sais. Mais si on n'arrive pas à s'entraîner, tu sais, si vous n'arrivez pas à vous entraîner comme avant, au début, paniquez pas, tu sais, il faut que le corps se réhabitue à sa nouvelle réalité. Pour certains, c'est très rapide, pour d'autres, ça demande un certain temps. Il faut juste être conciliant envers soi-même puis accepter cette réalité-là.
Absolument, comme tu le dis, je pense que de recevoir un diagnostic de cancer, ça remet les choses en perspective, puis effectivement, ça doit pour plusieurs changer la façon de voir les choses. Aussi, tu voulais nous dire que choisir de ne pas prendre la médication suite à un diagnostic de LMC, c'est dangereux.
Oui, c'est sûr que je le mentionne de façon peut-être un peu brusque en disant le mot dangereux. C'est que j'ai vu beaucoup de patients poser la question sur des groupes Facebook de LMC. Puis ça vient me chercher parce que c'est dangereux de ne pas prendre cette médication-là parce que le temps, l'alimentation, l'exercice vont pas transformer le chromosome de Philadelphie qui est à la base du problème qui cause la LMC. C'est sûr que le temps, l'alimentation et l'exercice vont vous aider à pas attraper d'autres cancers. Fait que c'est quand même bon de faire attention. Mais les médicaments peuvent vous garder en vie, donc ça vaut la peine de les prendre.
Puis, finalement, pour le dixième fait, tu disais que la LMC est un cancer différent des autres. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi?
Oui, ben en fait, tu sais, on n'a pas de masse à faire enlever. On n'a pas besoin de faire nécessairement une chimiothérapie par intraveineuse. Là, c'est très, très rare. Ça peut paraître moins intense que d'autres cancers, mais ça dure plus longtemps. Fait que, tu sais, j'ai des amis qui ont eu le cancer du sein, par exemple, puis qui ont eu une réalité vraiment différente. Puis quand on parle de nos expériences de cancer, on parle pas de la même chose exactement. Pour le moment, quand on parle de LMC, il n'y a pas vraiment de après, tu sais, ou de réelle rémission. Il faut vraiment apprendre à vivre avec. Je sais qu'en ce moment, ils travaillent sur des traitements, puis peut-être qu'un jour, on va pouvoir parler de rémission, mais en ce moment, il faut cohabiter, un peu comme, je fais un parallèle là, du moment avec la COVID-19, mais tu sais, il y a pas vraiment de après. Il faut apprendre à cohabiter avec la COVID parce qu'on ne peut pas l'irradier complètement, mais là, ils travaillent sur des vaccins de la même façon que on peut travailler sur des traitements pour la LMC. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un cancer qui est un peu différent par sa forme chronique. Donc, c'est ça.
Puis justement, je sais que tu viens bon de dire plusieurs faits et mythes, mais est-ce que selon toi, tu serais capable de nous dire une idée fausse peut-être que tu as déjà entendue ou qui circule sur particulièrement les cancers chroniques?
Bien, il y a quelques petites choses que j'ai entendues, notamment, ah, la LMC, c'est une pilule par jour, puis ça change rien à ton niveau de vie. Bon, peut-être qu'il y en a pour qui c'est le cas. Je pense que c'est quand même un parcours en montagne russe, donc il va y avoir des bons moments, des moments plus difficiles. De dire que c'est exactement la même chose qu'avant, je pense pas. Moi, il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'avait dit ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que cette personne-là savait pas du tout de quoi elle parlait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Aussi, le fait que ce soit chronique, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent penser que ça dure toute la vie. Oui, mais comme je l'ai mentionné, il y a quand même des traitements et des scientifiques qui travaillent là-dessus, des médecins, par rapport à des nouveaux traitements pour essayer d'avoir une forme de rémission. Fait que peut-être qu'un jour, la LMC sera plus chronique puis qu'on va pouvoir s'en débarrasser, si on peut dire. Mais voilà, ce seraient les idées fausses que j'aurais en tête.
Puis, est-ce que tu aurais eu un défi particulier qui est rencontré par les personnes qui ont une forme de cancer chronique que tu as eu à relever, puis que tu aimerais, dans le fond, partager avec nous?
Oui, définitivement. Je pense que le niveau d'énergie est quelque chose qui pour moi était vraiment abstrait avant d'avoir un cancer chronique. C'est-à-dire que j'avais toujours un surplus d'énergie et même quand j'avais plus d'énergie, je m'imaginais que j'avais encore de l'énergie. Donc, ça bougeait, ça y allait par là. Et maintenant, je suis plus consciente de mon niveau d'énergie. Donc, je sais que le matin, ça va mieux, je suis plus en forme. L'après-midi, ça commence à redescendre un peu. Puis en soirée, ben là, je suis vraiment fatiguée. Mais il y en a pour qui ils vont être très réveillés en soirée, puis le matin, ça va être plus difficile. Fait que c'est de voir comment on organise aussi la médication, à quelle heure on la prend pour que ça fitte bien avec notre niveau d'énergie aussi. Fait qu'il y a tout ce concept-là d'énergie qui a été un défi là, personnellement, puis aussi de les visites chez le médecin. Parce qu'un cancer chronique, comme c'est à vie, c'est que t'as souvent des rencontres avec des médecins spécialistes ou avec l'oncologue, des prises de sang. Fait que là, c'est de conjuguer, d'être une entrepreneur puis d'avoir ces rendez-vous médicaux. Tu sais, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très transparente puis je pense que ça paraît quand je participe à un podcast pour parler de tout ça. Mais moi, à chaque fois que j'ai un nouveau client, je lui dis d'emblée, j'ai le cancer. Alors, ça se peut qu'à un moment donné, je te dise, je suis à l'hôpital, je ne peux pas remplir mes obligations. C'est sûr que la nature des mandats que je fais, c'est beaucoup plus des interventions stratégiques, donc moins dans les opérations au quotidien, qui permet que si jamais il m'arrive quelque chose, le client est pas mal pris. Donc, ça a été quelque chose de quand même assez difficile à gérer. Puis aussi au niveau des amitiés. Tu sais, c'est sûr que il y a des amis qui étaient mal à l'aise au début, qui savaient pas trop, qui savaient pas trop comment réagir avec ça, puis que tu sais, c'est sûr que quand t'as moins d'énergie le soir, t'as moins le goût de sortir. Fait que c'est sûr que ça peut faire certains changements dans les amitiés à ce niveau-là. Mais en même temps, les gens qui sont restés, c'est des gens que je vois régulièrement, puis qu'on a développé une relation beaucoup plus profonde aussi. Donc finalement, ça peut être du bon derrière tout ça.
Puis, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui vient de recevoir un diagnostic de leucémie myéloïde chronique?
Lâche pas. Lâche pas, pleure, ris, crie, passe toutes tes émotions, ta frustration, c'est normal. Parle-en à des gens de ton entourage. N'hésite pas à aller voir un psychothérapeute ou un psychologue. Moi, personnellement, j'ai vu une psychologue pendant 2 ans, presque à toutes les semaines. Puis ça m'a vraiment fait un bien fou. J'ai appris à me connaître à travers tout ça, puis à réaliser que la maladie, c'est une chose, mais parfois, quand on a la maladie, ça donne un temps d'introspection aussi parce que ça se peut qu'on soit contraint, qu'on peut plus travailler ou que, bref, qu'on est un peu plus en mode introspectif et ça nous fait prendre compte de d'autres blessures du passé qui peuvent ressortir. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, de faire appel à des bénévoles, puis en même temps, de pas seulement être avec des gens qui ont des maladies, tu sais, d'aller avec du monde en forme, tu sais, juste pour vous garder en forme aussi. Puis même, je dirais que même si au début c'est un gros choc, il vient un moment donné où, en tout cas moi personnellement, il y a des journées que j'oublie que j'ai le cancer carrément, puis je m'en rappelle seulement au moment de prendre ma pilule le soir, tu sais. Donc, je pense que ça peut être peut-être encourageant pour les gens qui nous écoutent. C'est pas nécessairement le signe de la mort, mais c'est peut-être le signe d'une nouvelle vie. C'est juste qu'il faut s'adapter, puis la patience est de mise aussi. Apprendre à être patient, ça, c'est tout un défi, en tout cas pour moi, peut-être pour vous aussi à la maison. Donc, bonne chance, bon succès, gardez la tête haute, restez positif le plus possible, puis quand c'est le moment d'être triste ou négatif, n'ayez pas peur de vivre vos émotions. En temps réel, parce que si vous les accumulez, ça va sortir plus tard, ça va faire plus mal.
C'est vraiment de super bons conseils. Puis plus tôt, tu parlais de choses positives finalement qui ont changé dans ta vie depuis que tu as reçu le diagnostic de LMC. Donc, est-ce que tu vois autre chose peut-être, quelque chose que tu aimerais justement faire ressortir qui finalement, malgré l'épreuve qui a été le diagnostic, ben, qui est ressorti dans ta vie, une expérience positive, une rencontre ou autre chose.
Mais je dirais que quelque chose qui a changé ma vie, c'est d'accepter qui je suis après le diagnostic. dans mes défauts, mes qualités, de reconnaître les qualités que j'avais pour justement être game de partir mon entreprise, puis de reconnaître, d'accepter mes défauts au quotidien, puis d'accepter de demander de l'aide. Puis ça, c'est quelque chose qui pour moi, oh mon Dieu, c'était tellement difficile parce que je suis toujours en train d'aider les autres, puis de demander qu'on m'aide. J'étais tellement orgueilleuse, je voulais tout faire par moi-même, super indépendante. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'en ai besoin d'aide, puis j'ai un conjoint tellement aidant, tellement gentil, qui est là pour moi, puis c'est pas d'abuser de demander de l'aide. Quand on en a besoin, il faut pas hésiter à le demander. Puis depuis ce temps-là, je remarque que, tu sais, on parle souvent de la charge mentale dans un couple. Ben, elle est pas mal mieux répartie maintenant. Puis on a une communication encore plus forte. Puis ça nous a vraiment rapproché de cette épreuve-là. Puis on a un couple beaucoup plus solide aujourd'hui.
Marianne, vraiment un énorme merci pour ton implication, ta participation, de ta générosité dans le partage de ton expérience, puis d'avoir pris le temps aussi de rechercher plein de faits, comme on disait, de mythes ou même de conseils à partager avec les gens qui recevront un diagnostic de LMC. Donc, un grand merci.
Ben, merci à toi pour l'invitation. Si ça peut aider ou inspirer quelques personnes, ça me fait vraiment plaisir.
Donc, si vous avez des questions sur la leucémie myéloïde chronique ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec les services à la communauté de votre région et à visiter le www.slcanada.org pour nous joindre. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.
Ce balado est rendu possible grâce au soutien de Pfizer.
Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados à enregistrer, veuillez nous en faire part au Québec Info à commercial.lls.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez slcanada.org.